Alors, mon ami Laura et moi-même sommes réunis aujourd'hui pour parler de son livre qui s'appelle « Les imposteurs de l'économie », avec un sous-titre un petit peu populiste sur le thème « Ils s'enrichissent et ils nous trompent ».
Je peux juste dire un mot. En fait, c'est un regret que j'ai. J'ai validé le titre, mais pas le sous-titre. Et voilà. Je suis d'accord avec toi. J'accepte cette première critique.
Et que j'ai critiqué sur mon blog, ce qui a suscité pas mal de réactions et nous conduit par conséquent à faire ce débat en vidéo. Pour résumer, je reproche à Laurent d'avoir fait une enquête patrimoniale sur ces charlatans de l'économie qui, en effet, ont des activités annexes non déclarées au public et qui gèrent d'une certaine manière leur rente de situation d'universitaire pour occuper l'espace médiatique. Mais il a fait cette enquête patrimoniale, et elle est excellente, mais il n'a pas fait l'enquête intellectuelle qui aurait dû, de mon point de vue, aller avec, même si elle était certainement plus complexe et probablement moins vendeuse en termes de nombre d'exemplaires mis en librairie. Ce que je veux dire par là, c'est que, conformément à sa position idéologique très ancienne et très bien connue, il veut absolument faire rentrer dans ce procès tout à fait justifié, encore une fois, d'une certaine catégorie d'économistes, sa croisade habituelle contre ce qu'il appelle la pensée unique. Alors on pourrait d'ailleurs revenir, un jour il faudra revenir en France sur ce concept de la pensée unique, à quoi il sert, comment il est mis à toutes les sauces. Or, la démonstration n'est absolument pas probante, parce que, comme je l'ai fait remarquer sur mon billet de blog, la quasi-totalité des économistes qu'il met en cause sont en fait idéologiquement très proches les uns des autres, à quelques exceptions près. Et les deux exceptions près qu'il cite, ce sont des gens qui, eux, se conduisent plutôt correctement, ou en tout cas, en certaines circonstances, se sont conduits d'une manière déontologiquement correcte. Et Laurent le reconnaît d'ailleurs dans son livre. Il s'agit de Jacques Delplat et de Nicolas Bavrez. Ils sont donc keynésiens. Ils ont applaudi à toutes les mesures de relance budgétaire, monétaire, qui ont été adoptées par les différents gouvernements des États-Unis à la France depuis le début de cette crise. Et ils ne représentent certainement pas ce que Laurent et d'autres entendent par pensée unique. Donc ça, je pense que c'est un mauvais procès.
L'essentiel de mon enquête vise à montrer les situations de conflit d'intérêts, de corruption douce ou de corruption active dans lesquelles se sont mis certains universitaires qui se présentent sous leur devanture ou leur posture d'universitaire et qui, en fait, pour beaucoup d'entre eux, ont assez largement cessé de produire quand ils ont produit.
Hein. Production en général très médiocre.
Très médiocre ou faible. Non, il y en a aussi de talentueux dans le lot. Mais voilà, il y a tout un groupe d'économistes, ceux que l'on voit beaucoup dans les émissions de radio et télévision, qui en fait se sont transformés, transmutés au fil des ans en espèces de lobbyistes, parfois même d'apporteurs d'affaires, donc qui grenouillent dans le petit marégot du capitalisme parisien. Et l'aspect très choquant, et c'est ça que j'ai essayé d'établir, c'est la devanture qu'ils affichent et la réalité pratique de leur activité. Donc là, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le reproche que tu me fais est plus complexe. Il y a cette enquête un peu sociologique sur ce qu'ils sont, ce qu'ils prétendent d'être et ce qu'ils sont vraiment. Et tu me dis, il manque un volet, c'est l'enquête intellectuelle. Et je comprends bien que cette enquête-là est intéressante, serait intéressante. J'ai trouvé que l'utilité démocratique, c'est d'abord de faire ce tableau sociologique des gens.
Oui, mais regarde, tu cites par exemple Inside Job. Et dans le cas d'Inside Job, le cas de Miskin ou de Richard Portes, il y a une corrélation intellectuelle entre une rémunération, un travail.
Ouais, ouais.
Tu le fais pour ces deux-là, parce que c'est public, c'est connu,
ouais.
C'est la fameuse histoire de l'enquête commanditée, enfin de l'étude commanditée par la Chambre de commerce d'Islande, dont on sait ce que c'est venu après. Mais tu ne le fais pas, en général, pour les autres. Et si tu le faisais...
Parce que c'est dur, pour une raison assez simple, Philippe, que tu comprends, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme entre... Je ne dis pas... nécessairement toujours qui paye commande. Même dans les économistes de banque, Ils sont pris dans un principe de loyauté. Ils ont un contrat de travail qui font qu'ils ne peuvent pas mordre la main qui les nourrit. En même temps, dans le lot, il y en a de poisseux, il y en a de médiocres, et il y en a aussi de talentueux. Donc, je prends juste la zygomatique de banque, j'irai un Patrick Artus, par exemple, pétillant. Je pointe juste le fait que beaucoup de ces économistes...
Pétillant, surtout dans l'erreur. Mais enfin,
oui, bon, voilà, pétillant. C'est ce que je veux dire. J'observe que ces gens-là, économistes de banque, ont eu, pendant toute la traversée de la crise, une sorte de parti pris...
Optimiste.
D'optimiste. Oui. Hein. Donc, demain, ça a été la fameuse demain, manchette oui, de challenge alimentée oui, par l'entretien oui, de Patrick Artus. La crise est finie, voilà. Anton Brander a écrit à peu près les mêmes choses. Voilà, donc je ne veux pas faire de déterminisme strict. Je dis juste qu'il y a une sorte d'univers financier qui fait que la pensée est un peu enfermée.
Ce type de conflit d'intérêts, ou de zone grise, entre l'activité de recherche, l'activité intellectuelle et des activités rémunératrices n'est pas limité à ceux que tu appelles les porte-parole de la pensée unique. D'abord, je répète que beaucoup de ceux que tu mets en cause...
Sont keynésiens, dis-tu. Oui, tu sais voilà. bien que c'est une blague.
Non, pas du tout. Ils soutiennent François Hollande pour une grande partie d'entre eux. Enfin, pour une partie d'entre eux.
Tu crois que François Hollande est keynésien?
Oui, oui, absolument. Bon. Il est étatiste et keynésien, comme à peu près d'ailleurs tous les hommes politiques français. Je veux dire, ça nous entraînerait sur une discussion sur ce qu'est véritablement le libéralisme néolibéralisme, mais on a l'occasion de dire.
Si ce sont des lobbyistes, qu'un Jean-Hervé Lorenzi, qui est l'un de mes héros dans le livre, président du Cercle des économistes, se disent par posture « je suis keynésien ».
Non, mais ils le sont tous, Pastré, hyper-keynésien. Ça
fait rire tout le monde.
Mais Pastré, ça n'a
pas
de sens.
Ils ne sont plus dans un débat de doctrine. Là.
Ils sont plus dans un débat de doctrine, mais quand ils expriment des positions économiques, et comme ils sont incontournables sur tous les médias, on le voit bien, ils expriment des positions qui sont en effet tout à fait keynésiennes, libérales. Non. Mais laissons ce débat. Prenons le cas d'un Joe Stiglitz, qui, comme eux, ne produit plus rien depuis très longtemps du point de vue académique, qui est donc le contempteur de la pensée unique, du capitalisme financier, etc. Je n'ai pas fait d'enquête, je ne porte aucune accusation. Il a une activité de conférencier extrêmement rentable et il fait des livres où il exploite cette veine, en fait, altermondialiste ou anticapitaliste, etc. Donc ça n'est pas réservé, si tu veux, ce type de confusion n'est pas réservé aux gens qui seraient des partisans de la pensée libérale. Donc ça, c'est le premier point. Moi, j'aimerais bien qu'on en vienne au deuxième cas que j'ai soulevé, c'est-à-dire, est-ce que, en tout état de cause, il faut que la recherche économique ne soit financée que par l'État, parce que c'est censé produire de la neutralité. Alors, j'observe que la plupart des atterrés, enfin tous les gens que tu aimes beaucoup, sont tous fonctionnaires, tous payés.
J'aime bien le pluralisme.
Oui, oui, tous. Non, pas le pluralisme. Quand tu fais des. Là, c'est un débat pluralisme. Entre nous, c'est un vrai débat pluralisme. Quand Mediapart organise des débats où il n'y a que des atterrés.
Avec Anton Brander, et c'était un débat pluraliste.
Oui, absolument.
Bon, allons à l'essentiel.
C'est un progrès par rapport aux deux précédents débats.
Il n'y a pas que les débats avec toi qui sont pluralistes.
Oui, mais celui qui organisait à Chaillot était aussi un débat où tout le monde était fondamentalement d'accord.
Allons à l'essentiel.
Alors, si tu veux. Or, ça, c'est tout à fait contestable. Alors, je les répète pour qu'on m'entende bien. Beaucoup de gens, je vais citer Marx, hein, les conditions d'existence déterminent la conscience. Les atterrés, il se trouve qu'ils sont tous fonctionnaires payés par le contribuable. Ça ne donne pas, de ce fait, à leurs travaux de recherche, l'imprimatur de la virginité absolue. Et, en sens inverse, ça n'est pas parce qu'un certain nombre de travaux ou d'universités sont financés par une méthode inspirée des universités américaines où il n'y a pas de lien direct. Il y a dans certains cas des chaires qui sont en effet financées directement par des entreprises avec des objectifs très précis. Mais dans le système des universités américaines, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des financements généraux qui sont ensuite attribués sur des critères académiques, sur décision de l'université, à un certain nombre de chercheurs. Comme je l'ai noté dans mon billet de critiquant ton livre, où Esther Duflo mène-t-elle ses travaux extrêmement innovants sur l'économie du développement au MIT? Le MIT a, comme toutes les universités américaines, un financement privé. Et de ce point de vue, je trouve que la critique que tu fais à l'économie de Toulouse, qui est la seule institution française véritablement reconnue dans le reste du monde, parce que l'école d'économie de Paris ne l'est pas, elle est trop jeune, elle vient en plus de normale, enfin, c'est une construction récente, elle le sera peut-être un jour. Mais enfin, si, il y a les travaux de Piketty qui sont tout à fait reconnus aux États-Unis, mais c'était pas...
Il y en a beaucoup d'autres, là oui. Ce sont des partis pris
non, 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 pas du tout.
Mais termine ton raisonnement.
Voilà, tu dis, si l'économie de Toulouse reçoit beaucoup d'argent, contrairement à l'économie de Paris, c'est parce qu'elle est fondamentalement plus libérale. C'est pas vrai. Je regarde, l'économie de Toulouse, c'est 30 ou 40 thèmes de recherche, ce sont des centaines d'économistes membres et associés dans le monde entier. Et alors, en plus, il y a un reproche qu'on ne peut pas leur faire, c'est d'être médiatique. Parce qu'un Jean Tirole, on ne l'entend jamais, ce qui est d'ailleurs tout à fait regrettable.
Non, non.
Mais non. Donc, je crois que la critique est excessive. L'État est pauvre, l'État laisse les universités françaises, y compris les grands, certains départements, notamment les départements de recherche, dans la misère. Le fait qu'il y ait des financements privés, quand ils sont organisés, comme c'est le cas aux États-Unis, sur des bases académiques, n'est absolument pas choquant. Et ça a produit des tas de travaux. Hors de l'économie, les grandes études sur Derrida, elles se font dans les universités américaines.
J'ai un jugement plus nuancé que ce que tu suggères, parce que ce que j'observe, c'est que donc il y a la loi Pécresse qui autorise des financements privés depuis 2006 via des fondations ou via directement par des financements fléchés vers des chaires. Mmh. Donc il y a, pour les économistes universitaires, des débats éthiques et déontologiques qui ne sont pas exactement de même nature entre des fondations ou des chaires. Les financements fléchés posent des problèmes, et beaucoup d'économistes de toutes obédiences conviennent que ça pose des problèmes éthiques peut-être plus compliqués. Ce que j'observe, c'est que il y a eu des grandes institutions françaises publiques, hein, CNRS, l'École normale supérieure, l'Institut national de la recherche agronomique, l'École des hautes études en sciences sociales, qui se sont fédérées à Paris d'une part et à Toulouse de l'autre, pour créer, celle de Toulouse depuis plus longtemps, celle de Paris depuis plus récemment, des pôles d'excellence de recherche en économie. Ce qui est très frappant dans ce système, c'est que, sur le principe, je ne vois pas de matière à discussion, pour peu que la gouvernance et les financements soient maîtrisés. C'est-à-dire que qu'une école économique de Paris commence, hein, se crée en 2006-2007 et décide que voilà, ce sont eux les maîtres du jeu, ce sont eux les fondateurs, et qu'ils aient 30% de financement privé et qu'ils aient un conseil de gouvernance avec, au prorata des financeurs privés, 3 sièges sur 9 donnés à un banquier, un assureur, ça ne me choque pas. C'est ce que j'ai vécu en d'autres temps au monde avec des financements privés minoritaires. Et voilà, si ça ne me change pas si la gouvernance reste entre les mains de ses fondateurs, et ça ne me choque pas si il reste une muraille de Chine entre les financeurs et les contenus académiques ou le contenu des recherches.
À ma connaissance, c'est le cas.
C'est pour ça que je pointais le fait que parfois, il pouvait y avoir des dérapages. Alors, donc deux remarques. Si le système n'est pas maîtrisé, ça arrive à un système qui, je trouve, devient fou. Et je pointe la disproportion des financements privés entre Toulouse et Paris. BNP et AXA étaient au début de l'histoire de l'école d'économie de Paris, qui a donc très attaché la régulation, qui est plutôt classée à gauche, à différence de celle de Toulouse, et ils se sont fâchés.
Je ne sais pas où est classée l'école de Toulouse. Je regarde leurs thèmes de recherche, regarde leurs travaux, et c'est ce travail que tu n'as pas fait.
Non, parce que...
L'école de Toulouse travaille sur la finance. D'abord, ça n'est qu'un seul des champs de recherche. Mais comment aujourd'hui peut-on faire de l'économie sans travailler sur la finance? Ça ne veut pas dire... Ça n'est pas parce qu'on travaille sur la finance qu'on approuve le comportement, les retraites chapeaux et les bonus de plusieurs millions de dollars des dirigeants des banques. Enfin, la finance existe, elle est même fondamentale.
Comme l'école de Toulouse est calquée sur le modèle anglo-saxon, ils donnent donc des primes supplémentaires aux chercheurs ou enseignants-chercheurs qui se font publier des points de vue dans les journaux. C'est-à-dire un chercheur de Toulouse qui publie un point de vue dans Les Échos reçoit une prime complémentaire. Voilà. Et donc je ne fais pas de corrélation stricte, mais j'observe que certains de ces chercheurs qui ont été, par exemple pour l'un d'entre eux, patron d'un hedge fund américain, multiplient pendant toute la crise des déclarations disant il n'y aura pas de crise financière. Il a même reçu un prix d'économie décerné par Le Monde pour avoir écrit ses inepties.
Ça prouve à quel point le jury du Monde est compétent dans ce domaine. Non, mais c'est un... Je sais que...
Est-ce que je peux juste terminer mon raisonnement?
Ne ramenons pas ce prétendu journal de référence dans la discussion.
Il y a un premier débat qui est je donne les rapports de la Cour des comptes sur Paris et sur Toulouse. Paris a 2 millions d'euros sur les 4 ans sous revue apportés par les financeurs privés. Toulouse, 30 millions d'euros, donc il y a une sorte de déséquilibre. Et deuxièmement, on voit bien que dans un système non régulé, bien la muraille de Chine est brisée. Et je donne l'exemple de Dauphine, qui je trouve, alors là c'est économie et gestion, donc il y a une histoire plus particulière à Dauphine, mais où on voit des banquiers directeurs scientifiques. Contenus académiques. Et donc, on voit bien quand. Peut-être que cette muraille de Chine est mieux préservée, peut-être, de l'enseignement aux États-Unis, sans doute.
Le directeur de l'enseignement, pas seulement de l'économie, de tous les enseignements à Sciences Po pendant des années, a été quelqu'un que tu connais très bien, Jean-Paul Fitoussi, qui est totalement partisan dans son approche de l'économie. Totalement partisan. C'est un idéologue du keynésianisme. C'est quelqu'un... ceux que tu critiques disaient il n'y aura pas de crise. Fitoussi répète, et l'OFCE, que tu cites en exemple de neutralité, répète que la dette n'est pas un problème. Sternignac. Et ils sont très présents sur les antennes. Sternignac, qui est constamment invité, notamment sur France Culture, vient encore de faire un texte en disant que la dette n'était pas un problème. C'est une position idéologique, comme de dire qu'il n'y aura pas de crise bancaire. Bon, mais là où je soulignais en m'amusant de la contradiction, c'est que Landier a été dans un hedge fund. OK. Augustin Landier, puis c'est de lui dont il s'agit. Alors, à mon avis, son hedge fund n'a pas dû beaucoup gagner d'argent s'il avait de telles positions sur la crise. Tu vois, Monsieur Paulson, lui, il avait très bien vu que la crise allait arriver. Il a gagné 4 ou 5 milliards de dollars en jouant sur la baisse du marché des subprimes, dans des conditions d'une légalité douteuse, d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre question. Mais tu dis au début, personne ne voit d'objection à ce que Keynes ait été à la fois un grand théoricien, un praticien de l'économie politique, puisqu'il est intervenu de manière tout à fait importante sur la question des réparations entre les deux guerres, puis sur la question de Bretton Woods, tout en étant un spéculateur. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Je veux dire, moi, je trouve qu'en effet, c'est un mélange des genres assez discutable, mais tu ne peux pas le justifier ou l'accepter pour Keynes et le reprocher pour Augustin Landier.
Enfin,
c'est une contradiction, c'est une des nombreuses contradictions.
Ce que je dis n'est pas ça. C'est vrai que pour certains des économistes que je pointe, l'argument revient et ils s'en servent en disant en fait, quel est le débat? Quelle est la bonne distance pour un économiste pour observer le monde? Et je trouve qu'il y a un aspect très, très équivoque dans cet argument.
Là-dessus, nous sommes absolument d'accord.
Pour une raison assez simple, c'est que moi, journaliste qui écrit parfois sur les banques, je n'ai pas besoin d'être payé par une banque, heureusement pour...
Nous sommes totalement d'accord, d'autant plus, d'abord, ils ont... Le fait d'être soi-disant des praticiens ne les a pas empêchés d'écrire d'énormes âneries et de continuer à écrire d'énormes âneries sur la crise.
Et j'observe en souriant, que quand ils écrivent sur la dérégulation du marché du travail, ce n'est pas ça qui les incite à être pendant un petit bout de temps chez Renault ou chez PSA.
Absolument. Mais là-dessus, nous sommes totalement d'accord. Et en plus, les plus grands théoriciens de l'économie, enfin, moi, celui qui est le maître entre tous, Ludwig von Mises, a été un pur académicien, n'a jamais rien fait d'autre. Bon. Donc, c'est pas la question. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord. Si tu veux, je pense que... Pour avancer positivement, il y a en effet cette affaire de déontologie qui doit être réglée. Je voudrais rappeler d'ailleurs, parce que pour dire un mot simplement sur les économistes de banque. Un bon économiste de banque, en général, c'est un macroéconomiste qui renseigne sa banque sur la conjoncture mondiale. C'est pas le travail des analystes. Et quand on a vu dans le passé, notamment au moment de la crise des dot-com, des conflits d'intérêts absolument majeurs entre les analystes du Wall Street qui vendaient des introductions en bourse de produits dont par ailleurs ils écrivaient dans des mails, passez-moi l'expression, que c'était de la merde. Là, et ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par le fait que la recherche des des banques ayant ces activités de banque d'affaires a été totalement discrédité au profit d'institutions qui sont des institutions de pure recherche, c'est-à-dire qui ne font que ça et qui vendent, bien entendu, cette recherche, mais qui ne sont que des institutions de pure recherche où il n'y a pas ce mélange des genres. Je pense que les codes de déontologie, le minimum, en effet, c'est la transparence. J'observe d'ailleurs que ton livre aura eu au moins un mérite, c'est que la malheureuse journaliste, je dis malheureuse dans tous les sens du terme, qui anime l'économie en question sur France Culture, émission qui n'est vraiment pas digne de cette chaîne, et a maintenant chaque semaine gêné aux entournures sur faut-il ou ne faut-il pas dire quelles sont les activités annexes
de Pastré. Le médiateur de France Culture.
Voilà. Donc ça, c'est un point acquis. Il est tout à fait excellent. Mais je crois, moi, conformément à ma doctrine libérale, que rien ne vaut en effet la transparence, rien ne vaut la concurrence, que ces gens-là se discréditent eux-mêmes. Et j'en viendrai, et là nous serons aussi certainement d'accord, le problème, c'est pourquoi sont-ils en effet les oracles constamment invités, toujours les mêmes, toujours sur les mêmes chaînes, toujours dans les mêmes émissions, toujours par les mêmes journalistes, pour raconter leurs âneries, parce que très souvent, ce sont des âneries. Là, il y a un véritable problème. Et il y a en effet une immense responsabilité de la presse française, chez laquelle on retrouve ces vices congénitaux que sont la complaisance et la paresse. Et j'ajouterai pour beaucoup d'entre eux l'incompétence.
Oui, enfin... ouais, c'est vrai que dans celui-ci... Enfin, moi, le travail que j'ai fait, ce sera ma remarque... conclusion, c'est vrai que c'est une réflexion en clair. Je comprends la critique sur l'enquête intellectuelle, mais c'est un autre livre. Mais c'est vrai que les enseignements que j'ai tirés, je comprends nos désaccords, en fait, conduisent à une réflexion sur la démocratie. Parce que la vision que j'ai trouvée au terme de l'enquête, c'est de cette petite camarilla d'économistes, c'est une vision en fait sur l'oligarchie. Et l'oligarchie ne vit et ne fonctionne ou ne se perpétue que parce qu'il y a certains médias qui se prêtent au jeu. Donc oui. Je voudrais que c'est une réflexion
Si ce n'est que si on regarde ce qui est fondamentalement, je veux dire, le prisme idéologique de la grande majorité de la population française, si ces gens-là étaient véritablement les défenseurs de la pensée unique, ils seraient de très mauvais défenseurs. Parce que franchement, si un pays où seulement 30% des habitants sont en faveur de l'économie de marché, alors que c'est 70% en Chine, je pense que outre le fait de ne pas être
honnête... J'ai essayé de trouver une chute consensuelle pour terminer.
Non, mais outre le fait de ne pas être honnête, ils ne sont en plus pas efficaces.
Oui, mais donc voilà, pour moi, s'il y a une leçon sur... le fonctionnement de la démocratie et de la presse, et aussi une leçon sur la relation entre les politiques et les économistes, parce que c'est vrai que les politiques, et on l'a vu dans l'appel des économistes qui appelaient à voter Hollande, il y a une partie des gens que je pointe qui se retrouvent, et je ne suis pas sûr que Hollande les ait vraiment sollicités.
Hein. Non, mais voilà. Mais ça n'est pas, ça n'est pas en contradiction avec ce qui est le fond de leur pensée, et qui est quand même la vraie pensée dominante en France. Mais ça nous en
qui est la pensée libérale.
Qui n'est pas la pensée libérale, qui est la pensée étatiste et keynésienne. Mais ça,
c'est notre désaccord.
Mais ça, c'est un débat qui va durer encore quelques années, jusqu'à ce que la gauche se réalise que, en fait, le libéralisme économique, bien compris, est une idée de gauche.
Mais je pensais que tu allais trouver du consensuel.
C'est très consensuel.
Mais pas du tout.
C'est extrêmement consensuel.
Alors restons-en là, voilà. Pas du tout.
Mediapart.